Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Tombouctou et partout au Mali. Merci de rester fidèle à Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la matinale. Les titres. À chaque hivernage, on enregistre à Kati des cas de noyade, dont des décès, notamment dans des fosses septiques et puissards abandonnés. Cette année, les parents inquiets dénoncent et demandent des mesures. L'audience de confirmation des charges contre les djihadistes maliens Al-Hassan Abdulaziz Ag Mohamed se poursuit à la CPI. Le bureau du procureur a présenté hier des éléments plus liés à l'organisation en sardine et ses responsabilités assumées. La MDH demande que justice soit faite pour toutes les victimes de la crise au Mali. Elle a dénoncé la lenteur accusée dans le processus de l'application de cette justice. C'était hier au cours d'une rencontre à Bamako. Je suis Arkia Touré, Gagné Kanté à la technique. Bienvenue à vous. À Kati, quand l'hivernage rime avec les noyades d'enfants, chaque année à l'approche de la saison pluvieuse, la population est confrontée à cette situation parfois dramatique. Certains perdent la vie, d'autres sont sauvés in extremis, mais sans conséquence sur leur vie. La ville de Kati est un chantier de construction à usage d'habitation. Du coup, de nombreuses fosses septiques et puissards sont creusées puis délaissées par leurs propriétaires. Pour en savoir plus, écoutons ce reportage de notre correspondante à Kati, Abibatou Dra.
Difficile d'établir un bilan exact des victimes par an, car ces noyades ne sont pas pour la plupart jamais été signalées à la protection civile de Kati. La profondeur de beaucoup de ces fosses vont de 2,50 à 3 mètres environ. C'est après une forte pluie que ces fosses septiques et puisards sont remplies d'eau. Ils sont laissés à ciel ouvert par leurs propriétaires. Une situation dénoncée par les parents. Kadiatou Traoré, mère de famille.
Il n'y a aucun entretien pour ces caniveaux. Des enfants s'y noient tout le temps. Mais comme ils sont issus de parents pauvres, aucune disposition n'a été prise pour refermer ces caniveaux. Les gens ne peuvent que s'en remettre à Dieu. Il faut vraiment que des décisions soient prises pour cette situation déplorable. Car trop, c'est trop. On ne peut quand même pas voir des enfants mourir et ne rien faire. Par ailleurs, ni l'or, ni tout l'argent du monde ne peuvent égaler une vie.
D'autres comme Bassirou Damele, père d'un garçon victime, interpellent plutôt l'État à prendre ses responsabilités. Selon lui, c'est à l'État d'inciter les propriétaires à prendre conscience des risques liés à cet état de fait.
Je n'arrive pas à comprendre comment une personne va construire une maison en laissant les caniveaux sans couverture. C'est vraiment difficile à cautionner. L'État doit vraiment réagir car c'est une situation que nous vivons pratiquement chaque année. Nous voyons des enfants mourir noyés dans ces fosses-là. Il serait mieux aussi que nous, en tant que parents, nous nous levions pour une grande manifestation afin de faire entendre nos pleurs et nos lamentations pour que ce fléau cesse dans notre secteur.
Face à la situation, la mairie de la commune urbaine de Kati a pris des mesures. Elle interpelle chaque propriétaire à la fermeture des fosses et puisards, nous indique Badara Alou Sangaré, deuxième adjoint au maire de Kati.
Maintenant, il est vraiment important de les interpeller pour que chacun en ce qui le concerne puisse prendre des dispositions. Parce que si ce n'est pas fermé, le risque est là. Il y a le risque de noyade des enfants. Donc maintenant, c'est la responsabilité personnelle de celui qui est propriétaire du chantier. Parce qu'on est responsable de quelque chose qu'on a sous sa garde. Donc, on les invite à prendre toutes les dispositions pendant cette période de forte lumière surtout, donc de prendre toutes les dispositions pour qu'au moins elles puissent couvrir ces fosses-là.
L'élu communal invite donc chaque parent à surveiller de près ses enfants à chaque sortie, notamment ceux de moins de 5 ans. Agati, Abibatou Dra pour Studio Tamani.
Toute l'actualité du Mali, articles et programmes de Studio Tamani désormais disponibles sur WhatsApp. Pour recevoir toutes nos informations, il suffit d'envoyer Studio Tamani au 77 01 58 01. Comment prévenir les inondations et autres catastrophes dues à la pluie à Mopti en ce début d'hivernage? Les services de la mairie sont à pied d'œuvre. Les autorités ont décidé de jouer à l'anticipation après l'annonce de fortes pluies par la météo de la région. C'est pourtant dans ces conditions que Mopti accueille plus de 49 000 déplacés, dont plus de 7 000 sont sur un site inondable. Écoutons ce reportage de Mohamed Ali Agde Aleida, de retour de Mokti.
Parmi les actions de prévention figurent la sensibilisation et le curage des caniveaux, nous expliquent les autorités communales. Youssouf Nyumanta, premier adjoint du maire de la commune urbaine de Mokti.
On a un collecteur à grand diamètre qui traverse toute la ville. Donc déjà, curer ça, très propre. Donc en ce moment, on a entamé maintenant le caniveau qui vont se résister dans le collecteur. Les rues dégradées, on fait le remblage pour quand même faciliter l'écoulement des jeux de la pluie.
Ces travaux d'urgence effectués avant et pendant la saison des pluies vont coûter plus de 26 millions de francs CFA sur les fonds de la mairie. Mais pour y faire face, les autorités communales insistent sur le civisme des populations et la nécessité de payer les taxes et impôts. Youssouf Nyumanta.
Nous les Maliens, on veut toujours nos droits. Mais on ne dira jamais qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est mes devoirs. Vous n'entendez jamais que les hommes se battent pour dire que c'est moi qui ai à faire ça. Ou c'est moi qui ai à m'acquitter de mes taxes. Tu n'as rien payé dans ton quartier. Et tu veux que je crée les carnivaux dans ton quartier où les autres ont payé pour toi. C'est les TDR, les taxes qui rentrent dans la caisse de la commune. On le gère selon les travaux effectués dans la commune. Donc il faut que la population sache ça. Ils le font pour eux-mêmes.
L'annonce des fortes pluies et des risques d'inondation à Mopti intervient alors que des centaines de déplacés sont arrivés sur certains sites de la ville. Les autorités rassurent avoir pris des dispositions pour améliorer les conditions de s'installer dans les zones inondables. Kantara Diawara, directeur du cabinet du gouverneur de Mopti.
7000 et quelques déplacés sont accueillis sur le site principal qui est à Sokoura et sur l'ex-terrain d'entraînement de la CAN 2002. C'est un site inondable. D'ailleurs, il a été inondé avec la pluie du 16 juin dernier.
Mohamed Ali Agaleida, du retour de Mopti pour Studio Tamani.
À présent, direction à la Haye, aux Pays-Bas, audience de confirmation des charges contre les djihadistes Al-Hassan Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, hier deuxième jour, c'était les présentations des preuves du bureau du procureur. Le bureau du procureur a fait plusieurs présentations, notamment sur l'organisation à laquelle appartenait Al-Hassan, leur communication téléphonique, les responsabilités assumées par l'ex-commissaire de la police islamique pendant l'occupation djihadiste à Tombouctou, entre autres. Le point complet avec notre envoyé spécial à la Haye, Sekou Gadjigo.
Il s'agissait aujourd'hui d'apporter les éléments de preuve qui sous-tendent les accusations formulées contre le suspect par la procureure. Image à l'appui, le bureau du procureur a fait plusieurs présentations, une sur l'organisation djihadiste à laquelle appartenait Al-Hassan, une autre sur les liens entre le suspect et les membres de l'organisation, mais aussi sur sa participation dans les crimes commis. Ainsi, une photo du djihadiste assis dans un bureau de la police islamique discutant avec deux hommes en armes venus régler un différend. D'autres images d'Al-Hassan, comme celle où il est en train d'assister à une scène de flagellation d'une femme qui aurait été surprise avec un autre homme, ont été projetées. Selon l'accusation, le commissaire islamique donnait lui-même parfois ses coups de fouet. Toujours selon le bureau du procureur, Al-Hassan, en plus de coordonner les travaux entre la police et le tribunal islamique, recevait les plaintes et donnait des instructions aux membres de la police islamique. Aussi, il exécutait des ordres venant d'autres responsables dans Saridin ou Dakmi. D'autres preuves, comme les numéros de téléphone du suspect pendant l'occupation, mais aussi des extraits de ses communications, ont été présentés. Ces présentations des observations orales du bureau du procureur devraient se poursuivre jusqu'au jeudi où la défense aura la parole pour répondre. Sekou Gadjigo depuis La Haye, au siège de la CPI aux Pays-Bas, pour Studio Tamani.
Parlons encore de justice. Les associations et organisations de défense des droits de l'homme réclament justice pour toutes les victimes de la crise au Mali. Elles l'ont demandé hier lors d'une rencontre avec certains acteurs de la justice malienne. D'après elles, les autorités doivent prendre les dispositions nécessaires pour corriger certains dysfonctionnements dus à la lenteur du processus de l'application de cette justice. Dirissa Traoré, membre de l'association malienne des droits de l'homme, au micro de Fatia Ta.
Mais certes, il y a eu des avancées, mais il y a beaucoup de retard en matière de justice. Dans le cadre des violations graves des droits de l'homme commises pendant la crise, il y a beaucoup de retard dans le traitement de ces dossiers, notamment les récents massacres commis au centre, y compris aussi les massacres commis dans la région de Ségou, mais aussi le massacre d'Agalog, etc. Donc nous nous sommes dit qu'il est toujours important de discuter en fait, entre nous, et, afin que la réconciliation ne marche pas sur la justice et qu'on ait un processus de réconciliation qui respecte les droits des victimes, qui respecte l'état des droits et qui accordera une place importante à la lutte contre l'impunité.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Il est 8h passé et 8 minutes à présent en Luchon. Le maïs frais Rufe surpasse Kuchala, ce produit alimentaire qui avait disparu il y a plus de 7 mois, revient avec un prix élevé. L'unité est cédée entre 75 et 100 francs CFA. Selon les commerçants de fruits et légumes, cette cherté est due à l'insuffisance de la denrée sur le marché qui provient pour l'instant et pour la plupart des productions maraîchères. L'association des jeunes pour l'unité et le développement ajoute avec l'accompagnement du contingent allemand de l'aménagement à organiser sur lundi à Gao une formation sur les conséquences néfastes des stupéfiants. Pendant 3 jours, une trentaine de participants seront renforcés pour faire face au fléau. Elle rentre dans le cadre du plan d'action de 2019 de cette association. Cette nouvelle met fin à ce journal présenté par Arkia Touré, Gagné Kanté à la technique. Merci à vous de l'avoir suivi, mais restez à l'écoute. Dans quelques instants, la version Bamanankan de ce journal, c'est avec Mohamedou Touré.